Bonjour, bienvenue à La Voix de la librairie, une émission thématique enregistrée à la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec chaque premier lundi du mois et diffusée sur les ondes de CKIA le mercredi à 15h30. Mon nom est Catherine Doré et j'aurai avec moi quatre invités ce soir pour vous parler du thème de l'émission, la crise des valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? À quoi donne-t-on de la valeur? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai souvent l'impression que la valeur des choses ou des idées n'est plus calculée qu'à l'aune du dollar. C'est comme si la valeur marchande avait balayé toute autre conception que l'on pourrait se faire de l'idée de valeur. Que vaut l'art? Que vaut l'éducation? Que vaut la science? Que vaut la santé? Là, certains n'hésiteraient pas à y accoler un chiffre, hein? C'est comme si le coût de quelque chose englobait sa valeur. Par exemple, un baccalauréat en philosophie vaudrait en ce moment au Québec environ 9 000 $. Mais on sait très bien, vous et moi, que ça ne dit strictement rien sur sa valeur. Alors ce soir, on va écouter Émile Grigorov nous parler du sentiment de perte autour du moment 1800. Simon Richard réfléchira sur la valeur de la science. Patrick Desbiens nous expliquera la fonction sociologique des utopies. Et on aura notre Renauderie du mois qui portera, et ça tombe très bien ce mois-ci puisqu'on parle de valeurs, sur l'église Saint-Jean-Baptiste. Pour introduire notre premier sujet sur la crise des valeurs, nous avons choisi un extrait de la symphonie numéro 5 de Beethoven, dite la symphonie du destin, qui a été composée en 1808. Et donc, tout à fait dans la lignée de ce que Marcel Gauchet a appelé plus tard le moment 1800 et ce dont on va parler avec Émile Grigorov.
Thank you.
Je suis tombée par hasard aujourd'hui sur une citation sur mon mur Facebook de John Maynard Keynes. C'est une citation de 1936 qui disait ceci. « La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. » Alors, j'ai trouvé ça amusant parce qu'on va justement parler aujourd'hui de quelqu'un qui, lui, au contraire, ne veut pas échapper aux idées anciennes, mais cherche plutôt à reprendre contact ou en tout cas à conserver un lien avec les idées anciennes. On parle de crise des valeurs depuis, moi je sais pas, je suis née en 1960 et on parlait beaucoup de crise des valeurs. Il faut dire que mai 68, ça a été un moment de rupture radicale, en tout cas dans le milieu universitaire et intellectuel, en France. Et il faut dire que ça a eu des répercussions ici, comme on sait. Mais on parlait quand même de crise des valeurs bien avant. Moi, mes grands-parents parlaient déjà de crise des valeurs. Alors, on va nous, ce soir, parler de tout ça avec Émile Grigorov, qui enseigne la philosophie au Cégep et à l'université. Bonjour, Émile.
Bonjour, Catherine.
Émile, tu viens ce soir nous présenter un livre de Philippe Ny, qui est professeur au département de philosophie de l'Université Laval, un livre qui s'intitule « L'expérience de la perte autour du moment 1800 ».
Oui.
Et c'est un livre qui vient tout juste d'être publié en 2014 aux éditions Oxford. D'abord, qu'est-ce que c'est que le moment 1800?
Le moment 1800, c'est un concept, ou plutôt une notion, introduite par Marcel Gauchet pour désigner le moment historique qui vient un peu après la Révolution française. Mm-hmm. Philippe Ny, il reprend cette notion et il va essayer de penser le sujet moderne dans son ambiguïté. On peut penser le sujet moderne de différentes façons, c'est-à-dire en faisant recours à différents concepts, en nous engageant sur différentes pistes de réflexion, plus ou moins explorer, approuver au fil du temps. Mais quel que soit le cadre conceptuel de notre réflexion, nous sommes en quelque sorte obligés d'aborder le problème de la temporalité, spécifiquement moderne.
D'accord.
C'est-à-dire le problème de la façon dont le sujet moderne vit son rapport au temps. Et dans son livre « L'expérience de la perte autour du moment 1800 », Philippe Ny nous invite à envisager ce problème sous l'angle de l'expérience de l'héritage. De l'héritage. Bon, l'expérience de l'héritage, c'est l'expérience de celui qui vient, pour ainsi dire, de loin. On est dans un milieu familial.
Oui.
Ce milieu fait partie d'un milieu social. Celui-ci, à son tour, fait partie d'une communauté plus large, qu'elle soit nationale, culturelle, religieuse, et ainsi de suite. Et qu'on le veuille ou non, notre vie s'avère à tout moment inévitablement historique, puisque s'inscrivant dans la continuée de quelque vivre ensemble.
Oui.
On n'est jamais seul au monde. Seul Dieu, écrit Philippe Ny, et sur cette phrase s'ouvre sa recherche, son ouvrage, seul Dieu invente à partir de rien. Les hommes inventent toujours à partir de ce qu'ils ont reçu.
Oui.
Puis ils transmettent ou ils lèguent à leur tour. Donc, recevoir et transmettre, en tant que modalité de l'activité humaine dans le monde, représente les moments principaux de l'expérience de l'héritage, qui n'est autre chose qu'une forme de l'expérience temporelle de l'être humain. Et c'est sous cet angle qu'il sera envisagé par Philippe Ny.
Le sentiment de perte, j'imagine, dont il parle, c'est le moment où il y a eu rupture, le moment 1800, dans la foulée donc, de la Révolution française, où on a on s'est, dans un sens, débarrassé de la monarchie. On a brisé avec une certaine tradition, un certain héritage.
Oui, bon. Oui, il est question d'un sentiment de la perte de quelque chose de bien concret, c'est-à-dire l'héritage chrétien. Mais Philippe Ney, il part du sentiment de la perte ou de l'ambiguïté de l'expérience temporelle du sujet moderne en tant que tel.
D'accord.
Puis, le sujet moderne, il se définit par cette expérience de la perte. Parce qu'il est à la fois tourné vers le passé et vers le futur, dans le présent. C'est un sujet historique et cette historicité l'anime, le travail, le tourmente. Et toujours, le sujet moderne, c'est un sujet en crise permanente. Il est toujours angoissé.
Oui, oui. On en fait l'expérience, en effet.
C'est ça. Et il regarde comment les grands classiques de la pensée française, il est spécialiste de la pensée morale et politique française, Montaigne, Descartes, Pascal, Rousseau, envisagent le rapport au passé. Et bien sûr, au futur. Bon, l'expérience de l'héritage, pour lui, est à la fois un poids, et je cite, « dont on voudrait en vain être débarrassé, est une promesse d'avenir, une ouverture, un espoir, et cette ambivalence peut se lire jusque dans les objets quotidiens. » C'est dans l'introduction.
Oui.
Et pour illustrer la façon dont cette expérience temporelle se vit au quotidien, dans la réflexion philosophique au quotidien, Philippe Ney nous propose une lecture très originale, à mon sens, à mon avis, de la Cerisée de Tchekhov. Au-delà de la réalité, écrit-il, physique, au-delà de la réalité physique du terrain, des arbres, de la maison, la mise en vente de la Cerisée donne forme à une présence lancinante d'un passé qui nourrit l'avenir,
oui.
Mais aussi à une fuite du temps qui semble miner la possibilité du bonheur en le renvoyant à un passé révolu.
On va en lire un extrait. Alors, il s'agit ici d'un échange entre Gaëv et Pitchik. Alors, Gaëv, sais-tu l'âge de cette armoire, Lioba? Il y a 8 jours... J'ai ouvert le tiroir d'en bas et j'y ai vu une date gravée à l'intérieur. L'armoire a 100 ans. Exactement. Qu'en dis-tu, hein? On pourrait fêter son jubilé. Ce n'est qu'un objet inanimé, mais il s'agit tout de même d'une bibliothèque. Pitchik, 100 ans. Pas croyable. Gaëv, oui, ça c'est un meuble. Cher et très estimée armoire. Je te salue, toi, dont depuis plus d'un siècle l'existence est orientée vers les idéaux lumineux du bien et de la justice. Ton appel silencieux au travail fécond n'a pas failli depuis 100 ans, soutenant dans les générations de notre famille le courage, la foi en un avenir meilleur, implantant dans nos cœurs le sentiment du bien et de la conscience sociale. Alors, c'est un exemple de la Cerisée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cet extrait?
À quel point les objets nous parlent symbolisent notre rapport au passé, à quel point on s'y reconnaît.
Oui.
Et je dirais même, on voit en ces objets-là, dans la Cerisée, dans la Cerisée elle-même, le terrain, l'angoisse,
oui.
Le sentiment de la perte.
Oui, 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 ah oui, c'est très...
Ici, dans l'autre extrait, Lyubov Andreevna, c'est clair.
On le lit?
Oui, s'il
vous
plaît.
Entre Gaëv et Lyubov, Gaëv qui ouvre l'autre fenêtre. Le jardin est tout blanc. Tu n'as pas oublié, Lyuba? cette longue allée qui s'étend devant nous, droite, toute droite, comme une courroie tendue, elle brille au clair de lune. Tu t'en souviens? Tu ne l'as pas oublié? Lioubov. Ô mon enfance, ô ma pureté, c'est dans cette chambre que je dormais, d'ici que je regardais le jardin, le bonheur se réveillait avec moi tous les matins, et le jardin était alors exactement pareil. Rien n'a changé. Blanc, tout blanc, ô mon jardin, après un automne sombre et maussade, après un hiver glacé, te voilà jeune à nouveau, plein de bonheur, les anges célestes ne t'ont pas abandonné. Oh, arracher cette lourde pierre de ma poitrine, de mes épaules, oublier mon passé.
C'est ça, mais il n'est pas du tout facile d'oublier le passé.
Non.
Parce que c'est ça, c'est le message qui traverse tout l'ouvrage de Philippe Ny, que on vit le passé dans le présent.
Oui.
Et ben, on peut aller chercher chez Tchekhov, mais à mon avis, l'exemple le plus marquant dans la littérature du XXe siècle, dans la littérature moderne, c'est La Recherche de Proust.
Oui, La Recherche du temps perdu.
C'est ça, cette envie, ce désir profond, très vif de renouer avec le passé.
Oui. Mais on a eu des moments dans l'histoire de la pensée où, au contraire, on a essayé de faire table rase. Je parlais de mai 68 tout à l'heure. On a tout l'existentialiste Sartre qui a voulu se libérer.
Et Philippe Ny, il a écrit un des meilleurs livres que j'ai jamais lu sur Sartre. Ben, j'en ai pas lu beaucoup, une dizaine, disons, mais il a étudié notamment l'échec chez Sartre. La réflexion de Sartre sur l'échec, sur l'aventure humaine en tant qu'échec. Parce qu'il y a le désir de s'arracher au passé, à la tradition, à tout ce qui brime notre liberté, et en même temps à la prise de conscience que c'est loin d'être simple.
Oui.
Que c'est impossible.
On ne peut pas partir à zéro.
On ne peut pas partir à zéro. Et selon Philippe Ny, la réflexion sur l'ambiguïté du rapport au passé, à la tradition, occupe une place centrale dans la tradition intellectuelle française de Montaigne à Marcel Gauchet, donc du 16e au 20e siècle, 21e. Ayant étudié intérieurement la façon dont cette réflexion se déroule chez Sartre, dans son livre « Qui perd gagne
mm-hmm. », dont on vient juste de parler, oui.
Et chez certains penseurs français classiques d'inspiration plutôt libérale, dans son livre « Penser l'appartenance, enjeu des Lumières en France », dans le sentiment de la perte autour du moment 1800, il se penche davantage sur les représentants de la pensée conservatrice, tels que Jouffroy, Maistre, Bonald, Lamennais, Chateaubriand et Tocqueville. Et Marcel Gauchet, il finit par aborder Marcel Gauchet.
Mm-hmm.
Mais il commence, et je le répète, par voir comment se situe par rapport à cette problématique les grands classiques. Montaigne, Descartes, Pascal, Rousseau. Le sentiment de la perte éprouvé autour du moment 1800 par les soi-disant conservateurs ou les penseurs des anti-lumières était un sentiment vif d'avoir permis à l'idée du progrès, véhiculée par les penseurs des Lumières, de discréditer l'autorité de la tradition chrétienne, d'avoir discrédité l'autorité de l'autorité tout court. Cette expérience de la perte du religieux, et je cite, à cette époque présente l'avantage de révéler comment se nouent étroitement la critique et la fidélité, la volonté de rupture et l'évidence de l'héritage. Il n'est pas facile, il n'est même pas possible de s'arracher complètement au passé. comme je viens de le dire, le sujet moderne se définit par sa capacité de dépasser le passé en l'intégrant dans les projets qu'il est en train d'envisager, de concevoir dans le présent. Projet, ça nous renvoie au futur, mais oui. On est toujours dans le présent.
Oui.
Et on est tourné vers le passé, puis vers l'avenir. En même temps. Et c'est ça, il est question de sa capacité de transmettre l'héritage. À cet égard, et là je trouve l'analyse de Philippe Ny particulièrement pertinente, la soi-disant pensée morale et politique conservatrice n'est qu'une stratégie de renouvellement de la tradition, en tenant compte du fait qu'aucune tradition, pas même la plus belle qui soit, ne se voue à une restauration telle quelle, restauration complète.
Complète, c'est que, oui, c'est ça.
C'est que... Être conservateur éclairé, parce que dans les milieux, disons, progressistes, conservateur, c'est quoi ? C'est un gros mot, hein ?
Oui.
Mais il faut tenir compte de la sagesse des conservateurs, à mon sens. Être un conservateur éclairé, c'est savoir comment gérer son sentiment de la perte de la tradition, comment transformer cette perte en gain d'avenir dans le présent. Et là, j'aimerais réfléchir sur ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution conservatrice. Je trouve cette idée même de révolution conservatrice, je pense que c'est une trahison du conservatisme, parce qu'il ne s'agit qu'un démantèlement, déconstruction d'une tradition. Par exemple, l'État-providence, les services publics, c'est une tradition en Amérique du Nord et particulièrement au Québec. Donc, démanteler l'État-providence, c'est détruire ce qui vraiment ne rejoint pas la pensée des conservateurs éclairés. C'est un conservatisme barbare.
Mais en fait, si je comprends bien, ce que tu nous dis, c'est être conservateur au Québec, ça serait plutôt de protéger les valeurs de l'État-nation, etc., qui seraient notre héritage.
Oui, y compris l'héritage chrétien aussi.
Oui, c'est sûr qu'ici, au Québec, on a fait une rupture assez sévère avec ça.
Oui, mais ça fait partie de l'héritage culturel. Et Philippe Ny, dans son livre, il va montrer à quel point les valeurs du progrès, les valeurs des Lumières sont ancrées dans l'héritage chrétien.
Oui, ça, il y a nul doute. Oui.
Bon, je connais les raisons de cette méfiance, disons, pour ne pas dire hostilité à l'égard de l'héritage chrétien, mais je crois qu'il faut repenser ça.
Oui, mais ce qui est difficile à mesurer, c'est effectivement dans la transmission ou dans l'héritage, jusqu'où on peut se permettre d'être critique et de transformer, parce qu'il faut aussi qu'il y ait du changement. Il faut aussi que ça avance. Oui. On peut pas, sinon, on tombe dans une société traditionnelle qui est bloquée, qui est fermée, qui ne progresse pas, finalement.
C'est ça. Donc, il y a question...
C'est la mesure entre la rupture et la continuité là, qui n'est pas...
Voici le concept de continuité. C'est-à-dire, la continuité, c'est... Essayons de penser l'autonomie, une valeur Québec moderne, je dirais.
Voilà, contemporaine en tout cas, à peu près partout en Occident, l'autonomie, c'est bien important.
Oui. Il y a apparemment, et d'emblée, en conflit avec la tradition. Parce que pour être autonome, il faut s'arracher au passé, au milieu, etc. Mais d'autre part, c'est dans le milieu... Dans notre milieu, qu'on nous enseigne l'autonomie, on nous apprend à être autonome. Et Dans cette perspective, l'autonomie serait une gestion autonome de notre rapport au passé. Mais se couper du passé, ça n'a rien à voir avec l'autonomie. On risque de finir par perdre son autonomie. Se couper du passé parce qu'on se coupe d'un héritage à la fois historique et je dirais même existentiel. C'est ça. C'est ce que j'ai pensé en lisant ce livre, oui. Bien sûr. Je pense que c'est un outil, ce livre, de penser le présent, notre actualité politique, culturelle, etc. Et ce message, il est clairement, ou plutôt cette dimension de l'ouvrage est clairement annoncée dans la conclusion, là où il aborde un auteur contemporain. Marcel Gauchet, qui est le penseur du rapport entre le religieux et le politique en France.
Merci beaucoup, Émile. C'est une réflexion forte et intéressante sur le rapport au passé. C'est quelque chose qu'on met très, très rarement en question et ne serait-ce que pour ça, c'est une belle réflexion.
Grâce à Philippe Ny, je tiens à le souligner.
Tout à fait. Merci.
Merci à toi, Catherine.
Tu n'as plus de goût à la vie. Tu t'en vas seul et tu t'ennuies. Le temps se traîne, il fait noir dans ton cœur. Sur le passé, l'on te questionne. Tu te tournes, tu frissonnes, oublie ta peur, tu as droit au bonheur. Bientôt, le soleil reviendra et tu te souviendras. Vacances passées et des noms effacés sur la grève. Bientôt, il y aura dans l'air le son des rires clairs, le parfum du jasmin dans le vent du matin qui se lève.
Le bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et là, bosser pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui penche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
C'était la Java des bombes atomiques de Boris Vian. Et nous allons maintenant parler de science et de la valeur de la science à la lumière de la lente agonie de la recherche fondamentale. Sur Wikipédia, je suis allée jeter un coup d'œil, puis on nous dit, j'ai fait une recherche sur la recherche fondamentale. On nous dit que la recherche fondamentale, n'ayant par définition pas de perspective économique, elle est presque exclusivement le fait de laboratoires de recherche ou de chercheurs indépendants et fait rarement l'objet de partenariats avec l'industrie ou les services. Alors moi, c'est une petite phrase qui m'éclaire en fait sur en même temps la raison de cette disparition parce que, évidemment, la raison pour laquelle la recherche fondamentale disparaît, c'est que s'il n'y a pas de perspective économique, ben, il n'y a pas d'investisseurs. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien qui se fait. C'est aussi simple que ça. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit que ça pose aussi la question de l'utilité de la recherche fondamentale. Alors, si on ne trouve pas d'utilité, on n'a pas de raison d'investir et donc on n'en fait pas. Et de fil en aiguille, ça m'a aussi fait penser à l'art. Parce que moi, depuis que je suis toute jeune, on me dit que l'art, c'est inutile, que ça ne sert à rien. Alors, je me suis demandé la théorie du chaos, ou même, tiens mieux, la théorie des cordes, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, pour nous aider à réfléchir là-dessus, sur la valeur de la science en général, j'accueille Simon Richard, qui est étudiant au doctorat et chargé de cours en astrophysique à l'Université Laval. Bonjour, Simon.
Bonjour, Catherine.
Alors, je ne sais pas ce que tu penses de mon introduction. Est-ce qu'on peut dire que science et art, c'est le même combat?
Je pense que non, en fait, parce que la science part déjà avec un petit avantage, c'est que parfois, ça rapporte de l'argent.
C'est pas gentil pour l'art, ça.
Non, mais je sais, c'est une blague un peu en même temps, mais je pense que, en fait, d'une certaine façon, c'est un peu vrai aussi. Je pense que le gouvernement ou les gouvernements ont tendance à accepter plus facilement le financement de la science que celui des arts.
Oui, tout à fait.
Étant donné que, quand même une grande partie de l'argent qui va aller en sciences, qui va quand même aller en ingénierie, ça, généralement, ça plaît au gouvernement parce que, bon, ça fait travailler.
Oui, mais c'est la grande différence entre recherche appliquée et recherche fondamentale. Mais avant de tomber dans ce détail-là, on va revenir à ton plan de match. Donc, la valeur de la science au Canada.
Oui, la valeur de la science, entre parenthèses, au Canada. Donc, j'ai choisi de parler de ça cette semaine, en fait, ce mois-ci. Parce que, on entend parler depuis vraiment longtemps, en fait, ça, surtout les médias qui en parlent, plus que les scientifiques d'ailleurs, parce que je vais revenir là-dessus plus tard. Mais Donc, on pense souvent que la science ou la culture qui entoure la science, que tu m'as nommé tout à l'heure, le positivisme, en fait, en quelque sorte. Donc, cette espèce de recherche de la vérité, mais aussi ce doute qu'on a perpétuellement envers ce qui n'est pas prouvé directement. Donc, cette espèce de climat-là de scepticité. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe.
Scepticisme,
oui, ce serait vraiment probablement mieux. Mais ça fait partie un peu de la culture scientifique.
Oui.
Puis cette culture-là, elle fait partie aussi, c'est une partie inhérente de la démocratie, en fait. Parce que quand on est sceptique, on peut toujours remettre en question les agissements des gouvernements, mais aussi des personnes qui ont élu ces gouvernements-là. Donc, ce climat-là, c'est pas la science directement, mais plutôt la culture scientifique qui entoure la démocratie. Ça a toujours été partie prenante un peu de la démocratie. Mais là, depuis, vous savez sûrement si vous avez été vous avez suivi un peu l'actualité depuis l'arrivée du gouvernement conservateur au Canada. La science, un peu comme Radio-Canada, on parle beaucoup plus de ça que la science finalement, mais la science aussi a été largement chamboulée. Surtout, en fait, tout ce qui touche la science pas bonne, selon le gouvernement Harper. Donc, la science qui touche beaucoup, par exemple, l'environnement ou la gestion des ressources naturelles, évidemment. Ça plaît pas du tout, en général, d'avoir des chercheurs qui vont pouvoir parler aux médias directement. Donc, depuis 2006 environ, les scientifiques mènent un combat un peu souterrain. On n'entend pas beaucoup parler, mais il y a vraiment beaucoup de revendications qui se font parmi les scientifiques, pour les scientifiques. Et puis, je vais parler de ça un peu aujourd'hui, mais...
Parce que là, on est dans des décisions politiques. Là. Quand on parle des fonds de recherche qui vont à l'environnement, c'est que ce sont des recherches qui ne font pas l'affaire du gouvernement fédéral qui veut exploiter le pétrole et les gaz de schiste en Alberta, là, ou qui veut transporter le pétrole par oléoduc, etc.
Oui, c'est ça, mais c'est aussi... c'est majoritairement ça, disons, mais il y a aussi le fait que, par exemple, si un chercheur décide de s'intéresser à une population animale dans la forêt boréale, mais ça se pourrait que ses recherches lui demandent de sécuriser un périmètre ou quelque chose du genre. Et ça plaît pas vraiment au gouvernement quand ça empêche, par exemple, les compagnies forestières ou minières d'effectuer leur travail correctement, entre guillemets. Donc, tout ce qui touche au milieu naturel, si ça pose des balises à un gouvernement qui veut en avoir le moins possible, il aime pas vraiment ça. Et puis, c'est en grande partie le nœud du problème, c'est que la plupart des scientifiques qui sont touchés sont des scientifiques qui travaillent non pas pour des universités souvent, mais souvent pour des organismes scientifiques qui sont normalement d'appartenance fédérale ou provinciale.
Mais on a le sentiment que la science devient instrumentalisée à des fins politiques, ce qui va totalement à l'encontre de la mission de la science.
Oui, bien, je vais te lire la définition du petit Robert. Qu'est-ce que doit être la science selon le petit Robert? Donc, la science, du latin scientia, ce qui veut dire connaissance, est ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large, l'ensemble de connaissances, d'études d'une valeur universelle caractérisée par un objet ou un domaine et une méthode déterminée et fondée sur des relations objectives vérifiables. Donc ça pose tout de suite la question de la méthode scientifique. Donc, le scientifique, normalement, qui fait de la science fondamentale, disons, va s'appuyer sur une méthode qui est, par exemple, de poser une hypothèse, d'essayer d'expérimenter pour prouver ou nier cette hypothèse-là, et puis finalement, de publier des résultats, son constat d'échec ou de réussite envers cette notion-là, ou cette question-là, en fait, part d'une question, généralement. Et puis ça, c'est sans aucune balise. Donc, la science, normalement, ne doit pas être balisée, puisque toutes les questions sont bonnes.
Tout à fait.
Mais le gouvernement nous dit plutôt... Toutes les questions ne sont pas bonnes. Il y a certaines questions que j'aimerais beaucoup que tu vérifies et d'autres questions que je ne veux pas du tout entendre parler. Donc, c'est tout à fait une instrumentalisation, en fait, au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on nie directement un peu le sens même de la science en disant, faut que vous fassiez certains types de sciences et non pas toutes les sciences, qui est un peu le propos de la science, en fait. Tout est vrai, tout doit être vérifié.
Est-ce que c'est une révolution, ça, dans l'histoire de la science, le fait que tout à coup, on décide d'instrumentaliser ou de choisir de quelle manière la science doit être orientée, ou c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'il y ait une direction donnée comme ça à la recherche?
Bien, il y a toujours eu, depuis vraiment longtemps, une instrumentalisation un peu, disons, depuis la révolution industrielle en Angleterre, ou depuis que, disons, qu'il y a eu une recherche plus technologique, disons. Mais au départ, la science, par exemple, pour les Grecs, on dit souvent que les Grecs ont inventé la science, ou en tout cas la philosophie qui est devenue la science au cours des années. Déjà là, en partant, il n'y a pas vraiment d'instrumentalisation à l'époque, étant donné que, bon, il y a Périclès, on peut toujours dire que Périclès était un gouvernant d'Athènes, mais aussi un scientifique. Bon, mais c'est un exemple, mais je pense pas qu'on peut dire au sens large que la science était vraiment qu'il y avait une gouvernance faite sur la science à cette époque-là. Puis pendant vraiment longtemps, donc même avec la science arabe du début du Moyen Âge, probablement qu'il y a une certaine instrumentalisation, mais pas tant que ça. Ensuite arrive la science qui est, disons, plus ecclésiastique. Qui est instrumentalisé peut-être, étant donné qu'on donne un regard déifié à la science. On voit des recherches, mais souvent dans le but de prouver ou pas l'existence de Dieu, par exemple.
Oui, oui, mais c'était des questions qu'on se posait. C'était pas nécessairement une commande. Oui,
effectivement.
Les
encore
gens
là,
se posaient ces questions-là.
Et quand je parle de science, il faut toujours comprendre, à ce moment-là, on parle encore de beaucoup plus de philosophie que de science à proprement parler.
Tout à fait, oui.
Donc, la première révolution scientifique arrive avec Copernic et tout ça. Donc là encore, là, il y a une grande liberté, en fait, sauf qu'il y a aussi l'apparition des mécènes, par exemple, à la Renaissance, qui vont commencer à financer certains scientifiques, certains chercheurs, qui sont souvent, en fait, à l'époque, des touche-à-tout. On pense à Léonard de Vinci, par exemple, qui était financé probablement plus pour faire de la peinture et des portraits de riches bourgeois italiens que pour faire de la science, mais bon, il était quand même financé. Il y en a plusieurs comme ça, comme Galilée, par exemple, recevait aussi de l'argent. Il était financé même souvent par un certain cardinal dont je ne me rappelle pas le nom, mais il était financé en partie même par l'Église, qui est un peu paradoxal quand on connaît l'histoire de Galilée.
Mais le fonctionnement des mécènes, si je ne me trompe pas, à cette époque-là, qui finançait l'art aussi.
En très grande partie l'art, je pense.
Ils finançaient ça non pas pour obtenir une utilité ou un objectif précis dans les recherches faites en science, mais plutôt parce qu'ils croyaient dans la connaissance.
Oh, ouais, c'était de l'humanisme, en fait. Oui. C'est vraiment l'esprit de la Renaissance.
On est très, très loin des budgets là, de recherche en ce moment, où on est vraiment dans l'instrumentalisation.
Oh, oui, puis encore, d'ailleurs, ça arrive les mécènes ne sont pas morts. D'ailleurs, ça arrive encore en science que des mécènes vont par exemple... en fait, c'est souvent sous la forme les fondations des universités ou de certaines personnes qui sont devenues riches en étudiant à une certaine université vont redonner de l'argent. C'est très anglophone, en fait, comme fait les universités francophones québécoises. Et même en France, on ne voit pas autant ce phénomène-là que les universités anglophones. D'ailleurs, si vous comparez la fondation de l'Université McGill et celle de l'Université Laval, d'avoir un facteur 10 entre les deux.
Il y aurait toute une autre entrevue à faire sur la raison pour laquelle la culture francophone n'a pas de mécénat.
Oui, c'est une excellente question. En fait. Donc, comme je le disais, c'est un peu à l'époque de l'industrialisation, en fait, de la révolution industrielle anglaise, qui s'est répandue assez rapidement à l'Europe du Nord et de l'Ouest et aux États-Unis, au Canada par la suite. C'est à ce moment-là vraiment que les sciences deviennent se technifient ou se deviennent beaucoup plus technologiques parce que là, on s'aperçoit qu'il y a de l'argent à faire si notre bateau avance plus vite, si notre usine fonctionne mieux. Donc, il va y avoir un certain engouement envers en fait, ces sciences-là qui sont plus techniques, la mécanisation un peu de la science au sens propre du terme.
Il y a comme une évolution du capitalisme qui s'est faite en même temps que les découvertes, l'industrialisation, les découvertes techniques. On dirait que c'est un ensemble, cette affaire-là.
Oui, c'est ça. En fait, on pourrait dire, en fait, je pense que c'est interrelié parce que c'est un moment aussi assez névralgique dans l'histoire de la science, la révolution industrielle, c'est que à ce moment-là, premièrement, juste un peu avant, là, on peut parler, disons, de la fin du 17e siècle, la science apparaît ou émerge, en fait, la physique en tant que telle, qui est probablement la première science, à part les mathématiques, si on inclut les mathématiques dans les sciences, c'est un autre débat, mais bon, ça fait partie, c'est un outil scientifique, tout ça, c'est net et clair. Donc, la physique, à ce moment-là, se sépare et devient, disons, les philosophes naturels qui sont des fans de physique, qui font de la physique, vont devenir à part entière des scientifiques, des chercheurs qui ne sont plus nécessairement des philosophes, même sont encore unis par des liens intimes, disons. À ce moment-là aussi, la révolution chimique de Lavoisier, donc qui crée un peu la chimie moderne. Il y a aussi vraiment une quantification plus grande de la biologie. On passe un peu de la... On s'éloigne un peu de la zoologie, à proprement parler, ou même la botanique, où on fait juste identifier des plantes et des animaux pour prendre un peu de la physique et de la chimie puis l'incorporer dans la biologie. Ça va se faire plus tard, mais disons que les trois grandes sciences, là, les trois grands pans de la science naturelle, la bio, la chimie et la physique, apparaissent à peu près au même moment que la révolution industrielle. Donc, je ne sais pas si c'est un hasard, mais disons que l'esprit est là, en fait. Donc, et en physique, il y a aussi un autre aspect qui est intéressant à ce moment-là, c'est que la physique générale, qu'on appelle à ce moment-là, qui est la physique qui s'intéressent beaucoup, par exemple, à la physique de Newton, qui s'intéressent aux astres, la mécanique céleste, pourquoi les planètes tournent, pourquoi les marées, donc les grands phénomènes naturels du système solaire, disons. On passe à une physique qu'on appelle physique particulière, qui devient la physique, par exemple, de l'électromagnétisme, la physique de la chaleur, tout ça. Puis la physique de la chaleur, ben ça tombe bien, parce que en même temps, ça apparaissent les machines à vapeur et la mécanisation.
C'est comme si c'était tout le domaine des sciences appliquées, finalement, qui apparaissait, là, où on se met à diriger la science vers quelque chose qui est utile, qui donne des résultats concrets.
Oui, effectivement. La physique particulière, on pourrait aussi l'appeler pratiquement la physique appliquée, en gros.
Oui.
Et puis, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vais parler d'exemples. On pense souvent que la science fondamentale, ça sert à rien.
Comme l'art.
Mais là,
j'y tiens.
Oui, comme l'art, oui. Excuse-moi, Catherine, je ne voulais pas t'offenser. Mais il y a aussi il y a l'exemple contraire à ça qui est vraiment, que je trouve particulier de cette époque-là. C'est que, par exemple, les industrieux, appelons-le de même, c'est un peu péjoratif.
Allons-y, ne nous gênons pas.
veulent connaître, par exemple, comment faire les machines à vapeur les plus efficaces possibles. Parce que tout dépend de ça, finalement, dans la fabrication et les textiles, tout fonctionne un peu à la vapeur, les bateaux, évidemment, comme on sait. Donc, il y a un ingénieur français qui s'appelle Sadi Carnot qui a publié un article en 1824 sur la puissance motrice des machines propres à fabriquer une telle puissance. Je le dis au souvenir, là, mais je pense que c'est à peu près ça, le titre. Et puis, en s'intéressant à comment faire des machines à vapeur les plus perfectionnées ou les meilleures possibles avec le meilleur rendement, il découvre par la bande la deuxième loi de thermodynamique qui est vraiment pas appliquée, qui dit que l'univers va un jour mourir, tout ça. La grande loi de thermodynamique qui dit que les cycles ne sont pas réversibles.
Ça doit être assez rare, ça.
Ça arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, c'est quand même un coup de génie. Il a lancé, comme par hasard, un peu un grand pan de la physique appliquée qu'on appelle la thermodynamique, finalement. Qui est appliquée, mais qui est aussi très fondamentale, en fait. Qui est une des grandes physiques fondamentales du 19e, 20e siècle.
Ça n'aide pas la cause de la recherche fondamentale, ça, si on découvre que finalement, la recherche appliquée permet de faire...
Oui, on s'entend que là, on s'intéressait à un truc qui était quand même passablement vague. Le rendement de machines un peu imaginaires qu'on essaie de perfectionner, ce qui n'est pas vraiment le cas, disons, avec le gaz de schiste. Si on fait des recherches sur le gaz de schiste, il y a quand même peu de chances qu'on révolutionne la physique des particules.
T'sais. On s'entend.
Il y a quand même peu de chances. Donc, pour en venir à ça, donc comme je le disais, l'industrialisation a beaucoup aidé, disons, à la promotion ou l'arrivée de la technoscience, comme on l'appelle, donc la science qui vise le progrès technique ou la technisation. En tout cas, je sais pas, là, j'ai un très mauvais français ce soir.
Il n'y a pas de problème.
Donc,
on te suit, on te comprend.
À augmenter, disons, le niveau technique ou le niveau de confort, même, on pourrait dire, de la population en général. Puis ça, c'est arrivé vraiment avec, disons, la révolution industrielle. Mais là, avec les grands changements que le gouvernement conservateur a amenés, donc là, on se ramène au présent. Et puis, là, c'est vraiment une autre étape, là, parce qu'on... Même si on se compare aux États-Unis, qui ne sont pas un modèle de progressisme et de politique de gauche, là, disons-le franchement, et avec l'Europe, on s'aperçoit que le Canada prend de plus en plus de retard présentement. On est presque la risée du monde occidental, point de vue scientifique, parce qu'on s'aperçoit que juste le financement des organismes subventionnaires, ceux qui donnent l'argent aux professeurs, aux élèves, aux laboratoires, aux grands laboratoires même, est complètement... au prorata par habitant, on est vraiment en dessous des moyennes européennes et américaines.
Et pour en revenir à la valeur de la science, la disparition de la recherche fondamentale, est-ce que c'est grave? Ou si, dans le fond, c'est pas plus grave que ça? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences à ça?
Je pense pas que la recherche fondamentale va disparaître.
À s'amenuise,
ça c'est
sérieusement.
Ça c'est clair. Et puis, évidemment, c'est un problème pour ceux qui la font. Par exemple, moi je suis astrophysicien, donc on dirait c'est quand même assez fondamental comme type de recherche, disons. Là, si on...
Oui, à part ceux qui cherchent la vie extraterrestre, là, le reste c'est...
Ouais, puis encore là, la recherche de... C'est aussi abstrait que mon travail, sinon plus.
Planète
que,
habitable, c'est utile.
Ouais, mais c'est un autre sujet, mais disons que le présentement, le domaine de l'astrophysique qui remporte la PAM du mieux subventionné, probablement celui de la recherche d'exoplanètes.
Tout à fait.
Mais bon, et de loin, je pense. Ouais. Mais ça, c'est un autre sujet, encore une fois. Mais le gouvernement, ce que je disais, c'est que la science fondamentale va peut-être ça ne disparaîtra pas, mais ça menuise. Je pense que ça fait peut-être partie d'un... C'est vraiment une hypothèse que je lance, mais ça fait peut-être partie d'un cycle. Un cycle naturel de toute civilisation, celle d'en fait de... une fois qu'on a acquis un certain niveau de connaissance, qu'on pense qu'on connaît, on connaît pas tout évidemment, mais qu'on connaît suffisamment de choses, peut-être que la priorité passe après à l'élévation du confort finalement. Mais je sais pas, peut-être que là je fais un peu trop de science-fiction là, avec mes modèles de civilisation avancée et tout ça, mais peut-être que c'est naturel en fait comme changement. Mais en même temps, je pense qu'il faut combattre aussi un peu ce changement-là. Faut pas le laisser aller sous prétexte que ça serait peut-être naturel. Et puis ça, c'est un des problèmes, en fait, que je vois, qui est un problème interne, en fait, de la communauté scientifique. En fait, je pense qu'il y a deux grandes raisons pour lesquelles on n'en parle pas plus, en fait. Premièrement, c'est que, de ce problème-là, en fait, c'est que, premièrement, les scientifiques, généralement, sont pas des grands communicateurs. Il y a peu de scientifiques qui vont... communiquer directement avec la population. Souvent, ça va passer par l'intermédiaire de journalistes scientifiques qui, eux, sont bien passionnés, mais c'est jamais pareil d'entendre un journaliste parler de science que d'entendre un scientifique te parler directement de science, disons pour aviver une flamme dans ton petit cœur gelé de personnes qui ne s'intéressent pas à la science au départ.
C'est sûr aussi que la disparition de la recherche fondamentale, ça n'a pas d'impact sur la vie des gens, ça n'a pas de conséquences pour les gens. Ce qui a des conséquences pour les gens, c'est justement la recherche appliquée, c'est justement la recherche...
Mais ça en a une quand même, une conséquence. La conséquence, c'est qu'elle est plus nébuleuse, elle est un peu plus lointaine, mais il y a une conséquence quand même. Sauf que si les scientifiques ne parlent pas de ces conséquences-là, bien les gens ne le sauront jamais.
Tout à fait.
Et deuxièmement, je pense qu'un des grands problèmes, disons au niveau canadien, là, dans toutes les coupures qui ont été faites aux organismes environnementaux, et même je vais en parler peut-être plus, je vais détailler un petit peu tout à l'heure les méfaits conservateurs, mais l'autre chose, c'est que les scientifiques, on dirait que fondamentalement, c'est des personnes qui s'apitoient un peu sur leur sort. Donc, à date, il y a eu quelques manifs, les belles manifs avec des gens en sarreau, à Ottawa, mais il y avait pratiquement pas de monde. Les gens chialent, mais ils font pas de coups d'éclat ou d'action d'éclat vraiment pour que les gens en parlent réellement. On est vraiment loin des mouvements étudiants.
C'est pas des militants.
C'est pas très militant, non. Puis en plus, d'ailleurs, il y a du monde à qui ça fait l'affaire. Il y a beaucoup de scientifiques à qui ça fait l'affaire qu'on coupe dans la science fondamentale puis qu'on accentue la science, la technoscience, disons. Oui. Parce qu'eux, ils en font.
Oui.
Donc, s'il y a moins d'argent ailleurs, il y a plus d'argent pour eux.
Oui.
Voilà. Donc, et puis ça, bon, on peut appeler ça de l'égoïsme, mais bon, quand il y a question d'argent dans des laboratoires qui n'en ont déjà pas beaucoup, il y a des gens qui jouent leur survie, en fait, à avoir de l'argent ou à pas en avoir, tu sais. Donc, c'est de l'égoïsme, mais il y a quand même des étudiants qui, eux, n'auront pas de doctorat si leur professeur n'a pas d'argent. Donc, toujours au plus fort la poche, en fait. C'est très compétitif.
Tu nous fais une liste des méfaits
Il y a une petite liste vraiment pas exhaustive. En fait, là, c'est vraiment une petite liste, mais je vous encourage à aller voir. Il y a plusieurs sites. Faites juste écrire sur Google ou dans n'importe quel moteur de recherche « Canada attacks on science ». Vous allez trouver plein de choses passionnantes à lire. Mais... juste, par exemple, les grands coups d'éclat. Probablement en 2007, donc on s'entend que depuis 2006, c'est vraiment là que ça a commencé. Là. En 2007, il y a une nouvelle réglementation sur les communications entre Environnement Canada et les médias. Donc, le gouvernement en peur dit juste, si vous voulez communiquer vos résultats aux médias, vous allez devoir passer par un filtre qui s'appelle la bureaucratie conservatrice pour qu'on puisse voir avant que vous parliez ce que vous allez dire. Donc, en partant, ça, c'est carrément de la censure au niveau scientifique. En 2008, il y a élimination du Conseil national en sciences. Donc, le conseiller national en sciences, plutôt, c'est la personne qui faisait un peu, c'est un scientifique, généralement, qui faisait un peu le pont entre le milieu scientifique, les grands lobbies scientifiques, et le gouvernement en tant que tel, donc l'exécutif du gouvernement. Cette personne-là pouvait transmettre vraiment plus facilement le message de la communauté scientifique au gouvernement. Là, ils n'existent plus.
Je ne veux pas te presser, mais il nous reste une minute. Simon.
OK. j'achève de toute façon. En 2010, un exemple parmi tant d'autres, il y a une interdiction de communiquer avec les scientifiques canadiens spécialistes des radiations suite à la catastrophe de Fukushima.
C'est terrible, ça.
Donc, le Canada, le gouvernement ne veut pas que les scientifiques puissent dire ce qu'ils pensent ou quel genre de radiation on soit ici au Canada. Donc, wow! Vraiment la censure qui est importante quand même. En 2012, fermeture du laboratoire de recherche polaire sur l'atmosphère. On ne veut plus rien savoir des changements climatiques. Fini. Probablement le laboratoire qui était le plus à même de faire cette recherche-là, étant donné que le Canada est probablement le les terres les plus au nord, en fait, ben là, maintenant, il n'existe plus. Et en 2012, c'est le pire, c'est la cerise sur le gâteau. La loi Omnibus C-38 qui coupe dans à peu près tous les services scientifiques canadiens, donc tous les organismes chasse et pêche, océan et pêcherie plutôt. Puis les mythes, là, ils sont tous coupés et de beaucoup, en fait.
En conclusion, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire pour la défense de la recherche fondamentale?
C'est important parce que s'il n'y a pas de recherche fondamentale, on ne ferait pas de découvertes qu'on n'aurait pas faites sinon. Parce que plus on va rechercher loin dans l'avenir, plus on va trouver des choses que même si on faisait l'effort de les trouver, on ne les trouverait pas parce qu'on n'aurait pas besoin d'outils pour les trouver. Mmh. Par exemple, quand on fait de la recherche en astronomie, on a besoin de bonnes caméras. Ça a donné l'émergence en fait de la caméra CCD qui est aujourd'hui utilisée dans tous les appareils photo ou vidéo numérique. Donc, s'il n'y avait pas eu de recherche en astrophysique, ben, probablement qu'on aurait sûrement eu des caméras CCD, mais vraiment, probablement des années plus tard qu'on les a eues actuellement.
Dans le fond, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, c'est plus lié qu'il n'y paraît.
En fait, la recherche appliquée sert à faire de la recherche fondamentale et non pas l'inverse, malheureusement.
Que c'est une belle fin. Merci beaucoup, Simon.
Ça fait plaisir.
Alors, on va faire une petite pause musicale avant d'accueillir Renaud et la Renauderie du mois sur l'église Saint-Jean-Baptiste.
S'il y a une église que je n'oublierai pas, c'est bien celle-là. Lorsqu'un vent malicieux m'envoie paître ailleurs, par ailleurs entendre une distance de plus de 5 km de la bibliothèque Gabriel Roy, je deviens vite mélancolique et mes pensées se dirigent d'elles-mêmes vers l'arrondissement la cité, sorte de nord magnétique, mon étoile polaire. La première image qui me vient en tête, c'est pas le château, c'est pas le Concorde. Encore moins le Parlement. Je la vois, elle, l'immense église Saint-Jean-Baptiste, dans la splendeur de son axe est-ouest, gardienne tranquille du faubourg en équilibre sur le coteau Sainte-Geneviève et dont le parvis donne sur la petite rue de Ligny. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Non pas qu'elle en jette particulièrement, cette église, mais elle a sur ma psyché une douce emprise qu'aucun phare de ce monde ne parviendra à atténuer. Souvent encore, dans mes rêves, je sens sa présence qui veille sur la scène où l'action se déroule. Je suis en pleine jungle, pourchassant un anaconda, une sarbacane à la main, et je la vois soudain. Non, je le vois soudain, l'anaconda, enroulé autour de l'inaccessible clocher. Ou je suis à Thunder Bay, dans un pit stop à 18 roues, Je discute avec Sœur Angèle en attendant mon café qui coule de la machine. Elle me montre un coton ouaté qu'elle a remarqué et me demande si ça lui irait bien. Je réalise que nous sommes en réalité dans le vestiaire du faubourg, à l'arrière de l'édifiante catholique. Écolier, elle était pour moi le monstre de pierre, sa majesté les cloches, ce bienveillant mastodonte dominant la cour d'école juste à côté. Si grande qu'on attrapait des torticolis à vouloir regarder sa flèche pointant le soleil. Elle nous accueillait à la rentrée et nous nous sentions en sécurité avec elle, véritable surveillante des récréations. Aurais-je fait plus de coups pendables sans elle pour contenir ma hardiesse, sans l'ombre d'un doute? Dois-je m'en confesser? J'ai été plus souvent dans son sous-sol que dans sa nef. Hein? Pour les bureaux de vote, les parties de finissant aux primaires, rendez-vous d'artisans, des radiotons, je vous dis, ça brasse dans la cave. Et étant destiné aux limbes dès mon plus jeune âge, j'y ai plus souvent bu une bière que j'y ai laissé fondre une hostie sur mon palais. Je n'en demeure pas moins bien heureux. Je n'en demeure pas moins un de ses fidèles. Lorsque le printemps s'installe pour de bon, face au soleil couchant, je ne connais pas un meilleur endroit pour manger un sandwich avec des amis que sur ces marches de pierre. La fringale terminée, on se lève et on joue un peu au hockey pour faire passer le pastrami. La statue de Jésus est là, les bras ouverts, l'air de dire « Allez quoi, faites-moi une passe ». On a sonné les vêpres et comme l'air est bon, quelques fumeurs viennent nous rejoindre. Après avoir ainsi tâté le bonheur un bon moment, on se dit que notre attroupement est très certainement considéré comme illégal par le char de police qui vient de ralentir sur Saint-Jean, et nous nous dispersons tranquillement dans le quartier pour préserver le salut de notre âme. Amen.
Merci, merci beaucoup Renaud. On vient d'apprendre que l'église Saint-Jean-Baptiste va fermer.
Ben oui, c'est-tu pas ce mois-ci? Ben, je
oui,
pense que oui,
il y a quelques semaines. Est-ce que c'est une chronique que tu as fait dans la
foulée?
Oui,
oui, dans la foulée de sa fermeture. Mais je veux dire, ils la démoliront pas, elle est protégée.
Non. Oui.
Fait que, on va voir ce qui va. Ce sera le fun qu'il y ait quelque chose d'autre ou je sais pas. C'est quand même tout un local. Là.
C'est pas évident de savoir quoi faire avec ces grands édifices-là. Mmh. Mais c'est un très bel hommage. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On va écouter une pièce parce qu'on s'en va vers l'utopie. On va parler d'utopie et de dystopie avec Patrick. Et on va écouter une pièce de Jean Leloup qui est aussi la description d'une utopie-dystopie, le dôme.
Les oiseaux chantonnaient dans la jungle maudite. Nous marchions déjà depuis 3 jours et 3 nuits. Dans le silence épais, protégé des lianes, nos pas nous suivaient et moi je la précédais. Encore une fois, dit-elle, quand le soleil tombait, redis-moi comment, quel endroit nous irons, nous allons au dôme. Et là où nous allons, ne se trouve que des gens qui ont tout espéré. Le dôme est immense au cœur de la forêt et on dit qu'il éclaire à des mille à la ronde, à des mille à la ronde. Les oiseaux chantonnaient dans la jungle maudite. Nous marchions lentement vers le dôme au sans nom. Elle suivait patiemment le chemin mal dessiné. Et le soir se couchait et elle recommençait. Dis-moi, tous ces gens qui construisirent le dôme, pourquoi n'arrivèrent-ils qu'à cette seule solution? La question était bonne, alors je réfléchis, référant aux échos mille fois entendus. Il y a 20 ans, je crois, naquit le premier fou, puis plus tard eut lieu l'épidémie. Chaque ville posséda 2 ou 3 de ces fous, mais personne au début ne savait qu'ils étaient fous. Ils n'étaient anormaux que de par la faculté qu'ils avaient de ne jamais être intéressés plus longtemps qu'une minute à quoi que ce soit. Quelques-uns se tuèrent et les autres comprirent qu'il fallait rechercher un endroit où aller. C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme au sans nom. Et on dit qu'il éclaire à 2000 à la ronde. pendant que nous marchions vers la mort certaine, je commençais à croire à la fable du dôme. Quand un jour au lever, je fus saisi d'angoisse, une sorte de vertige, une fébrilité. J'entendis la musique et je vis la lumière. Une immense boule en verre s'élevait devant nous. À l'intérieur, les ombres de mes inventions, jeunes hommes et jeunes filles répétées en centaines de mille répliques parfaites de moi et de elle, rassemblées doucement dans la sphère en cristal, buvaient nonchalamment des verres fluorescents. La musique martelait à 100 lieues à la ronde, et l'éclairage créait les oiseaux albinos, dont les plus surprenants étaient les sans-toucans, rouges et jaunes au milieu de la nuit stroboscope. Nous allions vers le dôme, et là où nous allions ne se trouvent que les gens qui ont tout espéré. Le dôme est immense au cœur de la forêt, et on dit qu'il éclaire à des mille à la ronde. Au-dedans rassemblés les désespérés du temps, les perdus qui recherchent le paradis. On m'a dit qu'ils étaient assez jeunes, et pourtant semble-t-il qu'ils ne font que parler lentement. À des mille à la ronde, à des mille à la ronde,
valeur de l'art, valeur de la science, valeur de la tradition. Nous vivons quand même dans un monde où la valeur s'exprime en chiffres, en monnaie. Si on peut se questionner sur la valeur de la science ou de l'art, on peut certainement se questionner sur la valeur des idées. Quelle est la valeur d'une idée? Moi, je suis convaincue qu'il y a des idées qui valent beaucoup d'argent. Si on s'amusait à reprendre l'exercice qu'on a fait avec la science tout à l'heure, on a conclu que c'est l'utilité qui donne de la valeur. On parle de la valeur marchande ici, évidemment, on s'entend. Donc, c'est l'utilité qui donne de la valeur à la recherche en sciences. Quelle serait ici l'idée qui serait, genre, fondamentale, c'est-à-dire qui serait sans utilité? L'utopie, c'est l'idéologie pure, sans aucune réalité. Donc, nécessairement, sans aucune utilité. Mais peut-être qu'après avoir écouté mon prochain invité, vous allez changer d'idée. J'accueille Patrick Desbiens, qui termine cet été une maîtrise en sociologie et qui a enseigné la sociologie au Cégep d'Alma cette année. Bonjour Patrick.
Allô.
Donc, tu as choisi de nous présenter aujourd'hui un texte sur la fonction sociologique des utopies.
Oui, j'ai voulu aborder cette question-là parce que, en fait, c'est toi qui m'avais donné un peu l'idée, parce que lors de mes dernières chroniques, j'étais venu parler d'une genre de révolution par le rapport au temps. Puis j'avais donné une définition aussi dans une autre chronique de l'idée de liberté, de penser différemment l'idée de liberté. Puis tu m'avais dit, mais c'est très utopique comme façon de voir les choses. Puis je me suis dit, ben ouais, justement. Puis tu avais totalement raison, je trouvais. Puis je trouvais justement que parler de l'utopie, ben ça a une fonction dans la société. C'est pas juste du point de vue de la société. C'est pas juste une œuvre littéraire qui va faire rêver les gens. Ça a, à mon sens, on peut le comprendre d'un point de vue où est-ce que ça a une fonction de transformation de la société. J'ai commencé à voir m'intéresser à cette question-là sous l'angle de Norbert Elias, qui avait écrit un livre qui s'intitule strictement Les Utopies, où il analyse l'utopie de Thomas More.
Okay.
Il fait une analyse de Thomas More, mais je trouvais que je voulais en comprendre encore plus.
Pour situer les gens qui n'ont pas lu l'utopie de Thomas More, de quoi il est question rapidement?
L'utopie de Thomas More, en fait, c'est la première utopie qui a donné le terme, le concept à la chose. Puis c'est... ça a été écrit en 1516.
Oh.
1516, puis c'est un peu une critique de l'État moderne qui est en train de se mettre en place.
Okay.
Puis c'est la fonction, parce que lui, à cette époque-là, il ne pouvait pas critiquer directement le gouvernement, la monarchie qui se mettait en place. Donc, à travers une œuvre utopique d'un non-lieu, l'utopie, c'est ça, c'est le non-lieu, ou le lieu idéal, dépendamment de quelle étymologie qu'on prend. Donc, c'est le non-lieu ou le lieu idéal. Donc, utopie, c'est une île qui n'existe pas, qu'on ne sait pas où, et que c'est un monde qui serait en opposition, finalement, à la société dans laquelle il était.
D'accord. Donc, Norbert Elias a récupéré donc cette notion-là d'utopie de Thomas More pour étudier l'idée d'utopie.
Oui, bien lui, à la base, en fait, son idée, c'était de, puisque c'est un produit de la culture, plus c'est un fait de société, plus c'est un fait social, l'utopie, bien ça pouvait nous expliquer plus sur la société qu'elle a été, dans laquelle elle a été écrite que sur la société imaginée.
OK.
Puis c'est un peu ça qu'on va comprendre au cours de la chronique. Du point de vue de la sociologie, on ne peut jamais sortir de la société pour parler de la société ou pour réfléchir sur la société. C'est toujours de l'intérieur de la société. Mais c'est un peu une définition que je vais donner de la société à travers l'idéologie, finalement. Parce que là, je suis tombé sur la question Paul Ricoeur, en fait, le philosophe Paul Ricoeur, qui a mis ensemble dans un de ses livres, c'est l'idéologie et l'utopie, qui aborde les deux concepts en même temps. Comme Karl Mannheim l'avait fait, c'était le seul qui abordait la question de l'utopie et de l'idéologie de la même manière. Parce que les deux, puis ça c'est l'œuvre entière de Paul Ricoeur, son œuvre ça porte sur la philosophie de l'imaginaire. Mais et l'utopie, c'est de l'imaginaire. Je vais donner justement la définition de Norbert Elias de l'utopie. On va voir, puis on va la décortiquer. D'ailleurs, je veux juste dire avant que je ne parlerai pas des utopies, de leur contenu spécifique dans les termes de valeur, mais plutôt du concept d'utopie lui-même, dans sa fonction, justement, sociologique.
Social, oui.
Ouais. Donc, Norbert Elias nous dit que l'utopie, une utopie, c'est la représentation imaginaire d'une société contenant des propositions de solutions à des problèmes non résolus, bien particuliers, de la société d'origine, à savoir des propositions de solutions qui indiquent les changements que les auteurs ou les porteurs de cette utopie souhaitent, une utopie, ou bien les changements qu'ils redoutent, une dystopie, voire peut-être les deux à la fois. Donc, c'est quoi qu'il veut nous dire vraiment, Norbert Elias, par cette définition-là? Une utopie, c'est la représentation imaginaire d'une société. Donc, ici, on fait appel à la capacité d'imagination d'un individu à partir d'une société qui est elle-même située dans le temps et dans l'espace, par exemple, l'Angleterre du 16e siècle pour Thomas More. Donc aussi, on peut penser la capacité d'imagination sur deux plans. Le point de vue subjectif, celui de l'individu, c'est Thomas More qui imagine un livre, une utopie à partir de sa société. Mais on peut prendre aussi le point de vue radicalement sociologique, c'est-à-dire celui de la société, le point de vue objectif, j'ai envie de dire. Donc, si on veut prendre le point de vue, justement, radicalement sociologique, c'est lui que je vais mettre de l'avant aujourd'hui. Mm-hmm. Comme chez Michel Freytag, par exemple, on pense la société, ce n'est plus le sujet qui pense le monde différemment, mais c'est la société qui, à travers l'utopie, se pense elle-même ailleurs, dans un non-lieu, dans l'utopie.
Oui.
Dans l'utopie, comme ça. Donc, ce qui est en jeu ici, c'est vraiment la capacité d'imagination de la société par la société.
Et j'imagine que cette capacité d'imagination de la société par la société peut aller soit vers l'utopie, soit vers la dystopie.
Ça Exactement.
Peut, ça peut
oui, mais c'est ça. On n'a pas le choix de partir d'un point de vue. C'est là que le point de vue de Paul Ricoeur est intéressant, faisant lien avec l'idéologie. Parce que, comme je disais, on part toujours de l'intérieur de la société pour parler de la société ou pour la critiquer ou pour imaginer un futur possible. Donc, à quoi qu'on a affaire, finalement?
L'utopie se situe dans le futur.
L'utopie, c'est un
futur.
Le non-lieu, dans le fond, ça peut être un futur qui n'est pas encore advenu. Comme, par exemple, George Orwell, où ce qu'il pense, 1984.
Qui est une dystopie, en passant.
Qui est une dystopie, en passant, mais qui est écrit en 1900, les années 30, si je ne me trompe pas.
Oui. On va préciser pour les gens, la dystopie, c'est lorsqu'on pense au pire des mondes, puis l'utopie, c'est quand on pense au meilleur des mondes.
Exactement. On va y revenir aussi sur l'aspect de totalité par rapport à cette idée-là de pire des mondes et meilleur des mondes. Ça va être un peu la conclusion. Donc, lorsqu'on s'intéresse justement, le deuxième point finalement, elle nous instruit sur l'utopie, dans le fond, nous instruit sur le monde dans lequel elle a été écrite en tant que production de savoir de la société par elle-même. Donc, en quelque sorte, l'utopie, c'est un outil d'observation de la société dans laquelle elle a été produite, mais aussi un objet d'étude en soi, d'un point de vue littéraire. Par exemple, on peut analyser le style. Mais le deuxième point que je pense qui est le plus important, c'est que j'aimerais apporter dans cette chronique-là, c'est que l'utopie est une connaissance de la société sur elle-même, à une époque donnée et dans un lieu donné, comme j'ai dit tantôt, par rapport à la vision du temps. C'est l'image du futur que l'image du futur qu'elle nous présente a une portée normative, une fonction normative. une fonction qui oriente le devenir, finalement. C'est un peu ça le point, je trouve, qui est le plus important. Ce que je veux dire, c'est que l'utopie se présente comme une promesse de réalisation, pour le mieux ou pour le pire, bonne ou mauvaise, mm-hmm. en partie du moins, qui influence et dicte en quelque sorte le devenir de la société en tant que processus socio-historique. La société, c'est toujours un processus socio-historique. Donc, ce qu'on doit penser aussi, c'est que par rapport à la définition de Norbert Elias, c'est qu'une utopie, c'est une représentation imaginée d'une société contenant des propositions de solutions à des problèmes non résolus. Bien particulier, mais ce qui est important, c'est de la société d'origine. Autrement dit, la société occidentale de 1810, par exemple, qui correspond à l'époque de Charles Fourier, qui est un autre qui a écrit beaucoup d'utopie. Okay. Sa société est loin d'être parfaite. Et l'utopie peut fournir quelques pistes de solutions pour améliorer cette société-là. Donc, c'est toujours de la société dans laquelle on est qu'on peut imaginer un autre ailleurs. Comme l'utopie de Thomas More, par exemple, peut nous en dire long sur la société anglaise du début du 16e siècle. Donc, et finalement, la dernière partie de la définition, c'est que les propositions de solutions indiquent les changements que les auteurs ou les porteurs souhaitent, mm-hmm. d'un sens, ou redoutent. Donc, c'est une dystopie ou une utopie. Mais celle qu'on redoute, a autant une fonction normative que celle qu'on souhaite, parce que lorsqu'on on pose un monde possible, une des possibilités, parmi les infinies possibilités qu'il peut avoir pour l'avenir, ça peut nous mettre en garde. Donc, oui. On va toujours agir en tant que société par rapport à cette mise en garde-là, j'ai envie de dire.
De la même manière que, je prends un exemple comme ça, que 1984 a créé une espèce de peur du régime totalitaire, du communisme.
Ça nous
a montré jusqu'où ça pouvait aller.
Donc là, à quel point que le capitalisme n'est pas légitimé par cette peur-là du modèle utopique communiste, mmh. dans le fond.
Il faudrait décrire une dystopie capitaliste.
Oui, bien, en fait, chez Marx, par exemple, à l'utopie, d'ailleurs, ben là, faut commencer par dire aussi que l'utopie, en fait... chez Marx, c'est toujours de l'idéologique. C'est toujours de l'idéologie. C'est là le lien qu'on peut faire le lien avec l'apparition de l'idéologie, comme nous le montre Paul Ricoeur, c'est que le lien entre les deux, l'idéologie se présente toujours comme une distorsion de la réalité. C'est toujours l'idéologie, lorsqu'on commence à réfléchir à cette question-là, c'est par rapport à la science. L'idéologie, c'est le faux, la science, c'est le vrai.
Oui.
Comme Marx va dire de Charles Fourier, par exemple, que c'est utopique. C'est non fondé sur la réalité sociale. C'est non, il n'est pas concret sur ton affaire. Donc, l'idéologique est toujours, et dans ce sens-là, l'utopique, c'est la chimère. C'est oui. la folie. C'est le monde impossible. C'est, oui. la chose qu'on
c'est
peut
l'idée
pas...
générale qu'on s'en fait. Quand on parle, quand on dit à quelqu'un, c'est utopique, ce mm-hmm. que tu dis ou ce que tu penses, ça veut dire c'est impossible.
Fait que ça a une fonction un peu à première base, c'est négatif.
Oui.
C'est un péjoratif. C'est péjoratif, puis c'est négatif comme idée. Sauf que... lorsqu'on réfléchit dans les niveaux du symbolisme, de l'ordre symbolique, de l'idéologie, on se rend compte qu'il y a un deuxième niveau qui apparaît aussi, qui est, j'ai envie de dire, le niveau culturel. C'est la fonction de l'idéologie, dans ce sens-là, c'est un rôle d'intégration. C'est le niveau à travers lequel on articule notre expérience. On pourrait débattre longtemps, est-ce que c'est idéologique ou c'est vrai, mais ça reste que c'est toujours dans l'imaginaire, dans la capacité d'interprétation, qu'on va comprendre la réalité sociale dans laquelle on est. On ne pourra jamais la comprendre telle qu'elle, de façon parfaite, parce qu'il y a toujours un détour par la réflexion, un détour par la capacité d'imagination. C'est là le rôle de l'utopie prend son sens, dans le fond. On peut dire que c'est ça, c'est le rôle d'intégration. Donc, pour prendre un exemple, pour le capitaliste, par exemple, il n'y en a pas de problème, le monde va bien. Hein? Le monde fait sens pour lui, parce qu'il est intégré à sa société. L'idéologie capitaliste, en quelque sorte, rend facile l'intégration au mode de vie capitaliste. Parce qu'on y croit, on fait un détour par la réflexion. C'est de cette manière, je pense, qu'il faut le penser. Autrement dit, les deux pôles entre l'idéologie et l'action, la pratique, sont en connexion, en interrelation, même en rapport, en fait. En fait, l'idéologie et l'action sont en quelque sorte les deux pôles de notre rapport au monde. C'est pourquoi, comme par exemple Michel Freytag va parler de pratiques significatives. La pratique sociale, c'est toujours une pratique qui fait sens, à cause qu'on est enfermé dans une... pour une certaine manière, dans un ordre idéologique, dans une symbolique, dans un monde symbolique très cohérent.
Mais ça n'empêche pas que ce monde-là comporter des problèmes ou
exactement.
Des dysfonctionnements, sauf que, c'est... quelque part, c'est cohérent.
Mm-hmm. Le monde dans lequel on est toujours cohérent, mais il n'est jamais parfait encore.
C'est ça.
Sauf que c'est là que la fonction de l'utopie, à ce niveau-là, vient jouer son rôle, finalement. C'est comme je le disais, si l'idéologie joue un rôle d'intégration à l'ordre social, l'utopie, elle, a pour fonction, à ce niveau, l'exploration du possible. À travers, par exemple, Thomas More, l'œuvre de Thomas More, à travers le 1984, à travers Le meilleur des mondes, c'est un des possibles qui apparaît dans du point de vue du contenu. Donc, il y a quand même d'autres possibilités au monde possible. C'est le rôle des utopies d'explorer, justement, le possible, le devenir. On pourrait parler des luttes de classe, on pourrait parler du féminisme, on pourrait parler... Tout ça, c'est, en quelque sorte, des visions utopiques qui vont faire en sorte que ça va être un moteur de changement social. On peut dire que les utopies, quelque part, c'est un moteur de changement social.
Et comment les utopies sont un moteur de changement social?
Mais c'est parce qu'ils font appel directement à notre capacité d'imaginer un autre monde que celui dans lequel on est. Donc, lorsqu'on imagine un autre monde, comme je disais tantôt, ça a une fonction normative. On est déjà en train de travailler vers cette voie-là, en quelque sorte.
Ça devient impossible.
Ça devient impossible. Pour imaginer l'affaire, avec l'idéologie, la société est tournée en quelque sorte vers le passé. Comme le premier intervenant, Émile, le dit plutôt aujourd'hui, avec la société est tournée vers le passé et veut la reproduire telle qu'elle est, sans rien y changer, parce qu'elle fait sens, justement, avec elle-même. Avec l'utopie, la société, elle, est tournée vers le futur et voit d'autres possibles. C'est comme s'il y avait une brèche dans l'ordre symbolique et qu'on pouvait observer à travers cette rupture-là le non-lieu, l'utopie, à l'horizon. Mais lorsqu'on dit qu'il y a, il y a plusieurs autres possibles, donc on est dans un monde symbolique, dans un ordre symbolique cohérent à travers lequel on se réfère pour valider la société dans laquelle on est, mais il y a d'autres possibles. Donc, c'est le troisième niveau, c'est lui qui vient légitimer. L'idéologie joue le rôle de légitimation ici. On passe d'une idée de si... Dans le deuxième mode, je ne faisais que reproduire un peu inconsciemment la société par le détour, par l'idéologie. Mm-hmm. Dans le troisième mode, là, c'est la modernité, en fait. C'est l'apparition du politique. C'est l'être réflexif qui lui-même va décider de son ordre idéologique, en quelque sorte. On va agir, par exemple, au nom de la liberté, au nom de la raison, au nom de l'égalité. Donc, il y a une légitimation qu'on installe qui fait en sorte qu'on va construire un de ces possibles-là, justement. C'est ça l'idéal des modernes, la modernité, des humanistes, c'est de construire un idéal.
Oui.
Donc, c'est par le détour réflexif, par l'imagination.
Contrairement au monde traditionnel auquel on ne peut rien changer, on se dit on peut construire un monde sur l'idée de la liberté ou sur l'idée mm-hmm. de l'égalité ou sur l'idée de la raison.
Oui. Puis Marx, dans le fond, lui, disait faut arrêter d'interpréter le monde, puis il faut le changer, il faut être dans la pratique. Mais sauf qu'on peut quand même dire qu'interpréter le monde, c'est déjà être en train de le changer.
D'une certaine manière.
Du point de vue de l'imagination, ouais. Du point de vue de la portée normative de l'utopie, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc, la fonction de l'utopie à ce niveau-là, c'est pas simplement de représenter l'univers des possibles, mais d'attaquer cette même autorité-là. Ricoeur dit qu'à ce niveau, l'utopie ne fonctionne pas seulement comme une alternative à l'ordre existant, mais elle porte au jour le fossé entre les revendications de l'autorité et les croyances des citoyens dans un système de légitimité. La meilleure image qu'on peut prendre pour ça, c'est la lecture marxiste. L'utopie viendrait, par exemple, des prolétaires qui ne reconnaissent pas la légitimité de l'autorité. La société dans sa forme actuelle, le gouvernement en place. Donc, c'est eux, la vision utopiste vient de manière générale du contre-pouvoir, de la contre-culture. Qui remet en question l'ordre établi, finalement.
Il oui. Faut d'abord être capable de penser que le monde peut être autrement.
Exactement.
En fait, tout commence là, et c'est un exercice d'imagination.
C'est dans ce sens-là que c'est un exercice d'imagination, et c'est là que ça a une fonction normative, l'utopie. Ça a une oui. fonction qui est déjà en train de... C'est la pratique en acte à travers sa réflexion d'un point de vue... à l'intérieur d'un ordre symbolique, où la société est comprise comme non seulement des faits réels, mais aussi un imaginaire, un monde de symboles, de signes, de sens. Mais, par exemple, pour terminer, lorsqu'une utopie, il faut comprendre que c'est toujours une totalité. C'est toujours un monde qui est totalitaire en lui-même, parce que c'est le monde idéal. Donc, l'utopie perd sa fonction de normativité et de d'orientation vers un autre futur possible. Parce que là, le futur possible, il est réalisé. On n'a plus besoin de l'utopie. On a le monde totalitaire, le monde est fermé. Donc, la capacité, la rupture qu'il y avait dans l'ordre symbolique qui permettait l'imagination disparaît. On peut le voir des deux sens. Comme par exemple, dans Meilleur des mondes, c'est une imposition. C'est un totalitarisme par en haut, j'ai envie de dire, qui impose puis qui empêche l'imagination en droguant la population au soma, par exemple.
Alors, si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, c'est qu'une utopie réalisée, c'est totalitaire.
Ben oui. C'est un peu ça qu'on veut. On pourrait dire que le processus de la société, c'est un processus de totalisation. On veut en arriver à cette totalité-là. Mais c'est un processus de totalisation qui va toujours être à l'horizon. Mais de l'autre côté, ça peut être vraiment d'un point de vue humaniste, d'un point de vue de... je pourrais citer tout de suite une petite citation pour expliquer ce que je veux dire. « Nous devons confronter ce que nous pouvons être, nous dit Ricoeur, à ce que nous sommes. » Donc, qu'est-ce qu'on est réellement? Mais ben là, le contenu des utopies, cette question-là, c'est cette question-là qui amène de l'avant. Et est-ce qu'on peut travailler à aller dans ce monde utopique-là, j'ai envie de dire. Donc, l'utopie, elle a une fonction vraiment intéressante. Et la journée qui aura plus de possibilité d'être utopique, on va être dans un monde totalitaire, pour le mieux ou pour le pire, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un peu la critique. Je pourrais dire que Michel Freytag, en terminant, lorsqu'il fait une typologie des modes de reproduction de la société, lui qui est à l'aube, la société post-moderne, c'est un système social total, c'est une totalité très cohérente avec elle-même, où est-ce que justement il n'y a plus de possibilité d'imagination parce que c'est l'état de fait. C'est la science, on parlait tantôt de la science joue non plus un rôle, c'est plus un détour par la réflexion, mais c'est simplement l'état de fait.
On nous fait signe que c'est terminé. Merci beaucoup. Merci
c'est
beaucoup,
c'est un plaisir.
Patrick. Donc, les utopies, c'est bien, mais il ne faut pas les atteindre. C'est ce qu'il faut comprendre.
Ben, en fait, il faut peut-être toujours travailler à essayer de l'atteindre.
C'est bien, merci. Je remercie, c'est terminé. Je remercie Gab Paquette pour la composition du thème de l'émission. David, notre libraire et hôte. À mes invités, merci. Émile Grigorov, Simon Richard, Renaud Pilote et Patrick Desbiens. Merci à Big Nick pour le choix musical et la mise en onde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de La Voix de la librairie sur le site de Radio Fiat Lux en podcast. Et finalement, merci à CKIA qui diffuse nos émissions le mercredi à 15h30. C'était La Voix de la librairie.